Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots.
Des histoires inexpliquées, des histoires épouvantables parfois.
Oui, effectivement.
Bonjour Christian. Rebonjour Christian. Oui. Une qui fait encore parler après toutes ces années, c'est l'histoire de l'enlèvement de Lindbergh.
Oui, en fait, c'est amusant parce que dans ce cas-là, et amusant le met entre guillemets, on comprend que dans cette... j'aime beaucoup, moi, les histoires, les énigmes historiques. Pourquoi? Parce que bien souvent, contrairement à des histoires de fantômes ou d'ovnis, on a, comme on peut dire, de la viande autour de l'os. On a un événement historique sur lequel tous s'entendent, mais c'est un peu les prémices de l'événement qui semblent un peu floues. Et dans le cas de l'enlèvement du bébé Lindbergh, on est le 1er mars 1932, on est à Hopewell, au New Jersey. Et je te rappelle, à l'époque, hein, les médias, d'ailleurs le terme « kidnapping hein, »,« enfant enlevé », a été inventé pour cet événement
de
l'affaire Lindbergh. Okay. C'est là que des agents du FBI ont lancé le terme « kidnapping ».
Donc, la journée du 1er mars, c'est la journée où l'enfant est enlevé. Dans quel contexte?
Donc on a ce héros de l'aviation, Charles Lindbergh, qui, quelques années plus tôt, en fait, en mai 1927, a été le premier aviateur à traverser l'Atlantique en solitaire. C'est amusant parce que ça a pris 33 heures faire ça sur un avion qui avait été modifié pour l'exploit en question. Et aujourd'hui, quand on pense que l'avion Concorde franchit l'Atlantique en 2h30, c'est quand même étonnant.
Ouais.
Donc, et ces gens-là, on oublie ça aujourd'hui parce que l'aviation est devenue tellement courant, mais ces gens-là avaient vraiment des statuts de superstars. Les aviateurs de cet âge héroïque de l'aviation étaient des superstars. Et Lindbergh était celui qui était au sommet de la pyramide.
Il était riche, lui.
Il était riche. Il avait remporté plusieurs prix monétairement après sa traversée de l'Atlantique. Il endossait plusieurs produits commerciaux, ce qui lui rapportait beaucoup de sous. Et il avait marié une femme qui s'appelle Anne Morrow, qui était la fille de l'ambassadeur des États-Unis au Mexique.
Donc, il y avait un contexte assez fortuné.
Des gens fortunés, aisés. Et voilà que ce 1er mars 1932, alors qu'ils ont construit, ils se sont fait construire une maison à Hopewell, qui est très isolée, un long chemin sinueux qui amène à cette résidence très isolée. Et c'est leur premier soir qu'ils passent à Hopewell. Et voilà que vers 22 heures, le petit Charles Lindbergh Jr.,
dans la maison,
20 mois, dort au deuxième étage. Il a une grippe, donc on a une préoccupation davantage avec les domestiques de s'assurer que l'enfant va bien. Et vers 22 heures, une domestique monte au deuxième et constate que le bébé n'est plus dans son berceau. Alors évidemment, c'est l'alerte. Les policiers rapidement vont envahir les lieux. On va trouver à quelques mètres de la maison une échelle artisanale dont un des barreaux a été brisé. Et sur le bord de la fenêtre, une enveloppe, l'enveloppe du ou des ravisseurs, qui exige une rançon de 50 000 $ en échange de la libération de l'enfant. Alors tu comprends que comme Lindbergh jouit de ce statut de superstar, très rapidement, le FBI est appelé à enquêter là-dessus et ça devient... Les médias de l'époque vont appeler l'enlèvement du bébé Lindbergh le crime du siècle.
Hein. Ça prend des proportions. Mais avec raison, ça arriverait aujourd'hui.
Bien sûr, si on enlevait l'enfant d'une superstar, imaginons dans les années 60, si on avait enlevé la fille d'Elvis Presley ou la fille de Paul McCartney.
Ou un des enfants de Céline Dion aujourd'hui.
Voilà,
tu sais.
Exactement. Ouais. Donc, le contexte, on le comprend, c'est énorme. Et puis, l'affaire va un peu s'embourber. Alors que la police piétine, les ravisseurs ou le ravisseur, deux jours après l'enlèvement, va envoyer une lettre au Lindbergh disant qu'il demande maintenant 70 000 $. On vient d'hausser la marge. Et 70 000 $ en 1932, c'est énorme. Il y a une curiosité toutefois. La lettre a été mêlée depuis le Bronx. Alors que la police piétine, un instituteur à la retraite du Bronx se dit « si la lettre a été envoyée du Bronx, peut-être que là où les ravisseurs habitent le Bronx ». Alors il va faire passer une petite annonce dans un journal du Bronx. Le type en question s'appelle John Condon. Il fait passer cette annonce-là en se proposant lui comme intermédiaire entre la famille Lindbergh et le ravisseur. Et contre toute attente, le ravisseur répond, il accepte l'offre de John Condon. Condon va devenir un peu un élément là, à cheval entre le ravisseur et peut-être l'intermédiaire. Et là, ils ont une première rencontre dans un cimetière. Condon constate, déjà on le savait par l'écriture de la lettre avait été écrite, c'était une lettre manuscrite, écrite gauchement, avec des erreurs d'orthographe importantes. ça laissait supposer la présence d'un étranger. Et lorsque Condon rencontre la première fois le ravisseur, qui se fait appeler John dans un cimetière, il dénote chez John un fort accent allemand. Alors, il parle avec lui, ils s'entendent sur la remise de la rançon. Quelques jours plus tard, on donne à John...
L'argent
qu'il voulait. Il remet une lettre à John Condon disant où on pourrait retrouver le fils Lindbergh. On dit que c'est un bateau qui est ancré au large de Martha's Vineyard. Malheureusement, on se rend sur place, il n'y a pas de bateau, visiblement c'est un leurre. Alors que l'enquête, encore une fois, piétine, le FBI met tous ses efforts, on va retrouver malheureusement en mai le corps du petit Lindbergh, à quelques mètres finalement de la maison, et le rapport d'autopsie révèle qu'il est mort le soir même de son enlèvement. On suppose que le barreau brisé à l'échelle...
Serait tombé
alors que le ravisseur descendait. Bon, il aurait échappé l'enfant qui serait mort à ce moment-là.
Donc, Christian, le gars qui s'était présenté au cimetière, là, lui, il voulait juste mettre la main sur l'argent. Il n'a jamais enlevé d'enfant, lui. Là.
Oui, c'était peut-être le ravisseur de l'enfant, mais tant et aussi longtemps que ça courait, ça laissait présager qu'il était le ravisseur. Et là, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas ce qui se passe, l'argent ne réapparaît pas. Et voilà que soudainement, plusieurs mois après l'enlèvement, un homme dans une station-service du Bronx va payer avec un certificat or. Et à ce moment-là, les certificats or n'ont plus cours. On les ramasse un peu comme ici, on ramassait les 1$ lorsque la Banque du Canada a décidé de retirer le 1$. Et, coup de chance, le pompiste décide de prendre le numéro de la plaque. Finalement, le FBI va être informé. Ce certificat or faisait partie de la rançon. On va retrouver le bonhomme en question, un type qui s'appelle Bruno Hauptmann. Et là, l'affaire devient très mystérieuse.
Ça me fait rire quand tu parles comme ça.
On va retrouver chez Bruno Hauptmann 14 000 $ de la rançon cachée dans l'un des murs de son garage. Mmh. On va trouver également des clous. Les clous utilisés pour la fameuse l'échelle artisanale étaient des clous avec des têtes carrées, relativement rares. Or, ce Bruno Hauptmann, un homme de 36 ans, menuisier, a de ces petits clous à tête carrée. Les planches qui ont servi à l'échelle proviennent du garage, du grenier de Bruno Hauptmann. Alors, tout concorde.
Ben oui.
Et il parle avec un accent allemand. C'est un Allemand immigré aux États-Unis.
Okay.
Donc, évidemment, tout va contre lui. Il y a un procès qui s'ouvre l'année suivante. Bruno Hauptmann, évidemment, maintient qu'il est innocent. Il raconte une histoire qui semble cousue de fil blanc. Il raconte qu'un homme, un de ses amis, serait venu chez lui, lui aurait demandé de cacher l'argent qu'il ne savait pas alors étant l'argent de la rançon. L'homme serait retourné en Allemagne, serait décédé, et Hauptmann, sachant que l'argent était caché dans le garage, a décidé de l'utiliser. L'affaire paraît invraisemblable. Et évidemment, le procureur au procès, Hauptmann, dit, il a la même voix que le John qui a parlé avec John Condon au cimetière. Il avait l'argent. L'échelle a été faite avec du bois provenant de chez lui. Bref, et ça, Hauptmann n'aide pas sa cause. Durant le procès, il crâne. Il fait preuve d'une sorte d'arrogance. Il ne croit pas qu'il sera condamné. Et contre toute attente, il est condamné à la chaise électrique et exécuté pour le meurtre du petit Charles Lindbergh Jr. Quel est le mystère ici? Hauptmann a toujours maintenu son innocence jusqu'à temps d'être envoyé à la chaise électrique. Certains diront, oui, il ne voulait pas être reconnu pour un infanticide. Possible. Mais c'est vrai que l'histoire semble un peu louche. D'ailleurs, certains vont accuser les autorités d'avoir caché de l'information sur Bruno Hauptmann. Est-ce que le FBI ne cherchait pas un bouc émissaire rapidement? Les Allemands, on se rappelle, on est en 1932 au moment de l'enlèvement de Lindbergh. Il y a une montée du néo-socialisme avec un jeune moustachu allemand qui s'appelle Adolf Hitler, qui n'a pas beaucoup de popularité. On vient de sortir de la Première Guerre mondiale avec justement l'Allemagne. Donc, est-ce qu'on ne cherchait pas rapidement un bouc émissaire? L'épouse de ce Bruno Hauptmann a toujours maintenu que le soir du 1er mars 1932, il avait passé la nuit avec elle. Alors, l'histoire reste un énigme. Est-ce que Bruno Hauptmann était réellement le coupable? Personnellement, je crois que oui. Je me rappelle qu'un des militaires qui avait siégé sur le conseil juridique, un type qui s'appelle le général Schwarzkopf, avait dit, parce que c'est vrai qu'il y a une partie du dossier qui est demeurée secrète, Schwarzkopf avait dit... Il y a des gens encore qui doutent de la culpabilité d'Hauptmann, mais s'ils avaient eu l'accès à toutes les informations, comme moi j'ai eu accès aux informations, ils n'auraient aucun doute. Mais néanmoins, ça reste une énigme historique qui rebondit
toute
de temps
histoire,
en temps.
Toute une histoire. Au retour, Christian, on parle de Chupacabras.
Chupacabras.
Qu'est-ce?
Une créature mystérieuse, suceuse de sang.
Ouais.
Qui soit dit en passant, veut dire en français le suceur de chèvre.
Pardonne-moi.
Ça soulève toujours une petite réflexion cocasse.
OK. Ben, on parle de cette chose au retour.
Le chupacabra.
Phénomènes étranges et inexpliqués. Histoires insolites. Énigmes non résolues. Mythes et complots.
Bon, alors, Christian Page, quelle est cette bête qui s'appelle
là, Marie-Hélène, tu voulais que je te parle du chupacabra.
Oui. Alors, non, mais moi, dire chupacabras, je n'ai aucun...
Je préfère le suceur de chèvre.
Ça me tente moins de le dire. Alors, parle-nous de cette bête.
En fait, c'est une histoire qui, aujourd'hui, fait partie de la culture populaire. On a même fait des films, des publicités incluant, qui met en vedette ce chupacabras. L'affaire commence, on est en mars 1995, sur l'île de Porto Rico. Alors soudain, tout près d'une petite ville qui s'appelle Canovanas, les agriculteurs constatent qu'il y a la nuit des espèces de carnages dans leurs poulaillers. Certains animaux de ferme sont tués, sont exsangués, en particulier des chèvres.
Mais ça arrive dans les fermes.
Il y a des rapports de nécropsie qui sont plutôt contradictoires. On amène les bêtes pour être nécropsiées. Les médecins légistes spécialisés dans les animaux disent ben ces animaux-là ont été tués soit par des chiens, par des babouins, d'autres animaux qu'on retrouve dans l'île. Mais certains témoins disent « Non, c'est pas ça. J'ai vu la bête. Mm. » Et la bête, ils la décrivent comme une espèce de petite gargouille qui fait 1 mètre, 1 mètre 50, avec des yeux rouges, une sorte de colonne vertébrale munie de pics, des dents acérées, des griffes aiguisées. Une véritable créature sortie d'un mauvais film d'horreur de série B. Et les gens racontent que cette créature-là est capable de bondir, de sauter par-dessus les clôtures, et ils lui donnent le nom de Chupacabra, ce qui veut dire le suceur de chèvre. Et alors que toute cette histoire-là se répand dans le pays, parce que là, toutes sortes de gens se disent, parce que un peu partout dans l'île de Porto Rico, d'autres animaux sont retrouvés morts, et une espèce d'hystérie collective qui s'empare du pays. Il y a même, à un moment donné, le maire de Canovanas, José Soto, qui lui refuse de croire que les bêtes ont pu être tuées par des animaux sauvages. Lui, il endosse cette idée d'une créature mystérieuse, exotique. Mm-hmm. Alors, il va même participer à des battues dans la forêt pour retrouver le dit suceur de chèvre, qu'on ne trouvera pas, bien sûr. Alors que la presse s'empare de l'histoire, plusieurs émettent des hypothèses. On a observé des ovnis dans la région. La créature aurait-elle été une créature échappée d'un ovni oublié sur Terre comme le pauvre E.T. dans le film de Spielberg? Ou on sait également que tout près de Canovanas, il y a la forêt de El Yunque, une forêt où il y a un laboratoire mené par les Américains où on étudie la faune, on étudie des plantes endémiques. Est-ce que les Américains auraient créé en laboratoire cette mystérieuse créature, une espèce de Frankenstein qui aurait échappé à leur pouvoir? Quoi qu'il en soit, dans les mois et les années qui vont suivre, la créature va être observée un peu partout à travers le monde, mais toujours dans des communautés hispanophones. Les journaux qui parlent de la bête sont des journaux espagnols. Uh-huh. Les sites Internet qui parlent de la bête sont des sites espagnols. Alors, la créature apparaît bientôt au Mexique, au Guatemala, au Chili, au Brésil, même si on parle de portugais.
Et les animaux sont très présents dans les légendes, tu sais, voilà. Au Mexique aussi.
Et absolument. Et quand on fouille dans la littérature, on découvre que le chupacabra, s'il apparaît en 1995 sous le nom de le suceur de chèvre, quelques années plutôt dans l'île de Porto Rico, il y avait aussi une espèce de rumeur qui s'était répandue du même genre, où là, on avait appelé la créature le vampire de Moca. Parce qu'il y avait une petite ville, Moca, où on avait trouvé des animaux exsangués, probablement par des chiens sauvages ou des babouins. Mais on avait pointé du doigt une créature exotique et fantastique. Et c'est comme ça que le chupacabra va partir d'une petite communauté de l'île de Porto Rico et devenir aujourd'hui un phénomène culturel.
Finalement, on n'aura jamais su c'était quoi la petite bête.
Non,
c'était peut-être un loup, finalement.
Je pense que c'était peut-être un chien, oui, effectivement.
Ouais, ouais,
une petite
coyote,
anecdote,
ouais.
j'avais enquêté sur un truc où ça s'était passé dans Little Havana à Miami. Et c'était un chien, mais tous les gens hispanophones voulaient croire que la bête était le chupacabra, ce qui était rendu aux États-Unis.
OK. L'autre nom que tu lui donnes, ça ressemble à un grand titre du Journal de Montréal.
Oui, oui. Un nom un peu sensationnel.
Merci beaucoup, Christian.
Ça me fait plaisir.
Merci.